Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bienvenue à tous pour cette 26e étape qui démarre à Orsonville et qui va se terminer, si tout se passe bien, à Chartres. Je vous avais laissé, j'étais sur la petite place du village où il y avait une petite mare, des canards, le clocher qui indiquait 2 ans moins le quart et je vous ai dit, nous sommes à Orsonville, la ville d'Orson Welles. Et ça tombe bien parce que j'ai l'ancien maire du village. Est-ce que ça a un rapport avec Orson Welles, monsieur le maire ?
Absolument.
Vous voyez, je vous l'avais dit, c'est quand même une preuve. Bon, enfin, il est plus maire maintenant, donc je crois qu'il ne faut pas...
Voilà pourquoi.
Je crois qu'il ne faut pas accorder beaucoup de crédit à ses propos. Mais j'étais ravi d'être hébergé par Marie-Claude et Pascal. Marie-Claude, elle est psy, et Pascal, il est agriculteur. Vous vous rendez compte ? Et vous savez où ils se sont rencontrés ? À la chasse. Comme quoi, il faut arrêter de dire que la chasse, c'est nul. Ça permet de faire des couples. Et donc, moi, je dis respect. Pascal, quel est ton rêve ?
J'ai réalisé beaucoup de mes rêves. Et donc, ça, c'est quand même... C'est très satisfaisant. Et mon rêve, là, maintenant... J'ai ma mère qui vient de décéder à plus de 100 ans, qui était tout à fait quelqu'un de très humaniste.
Bah Marie-Claude, on ne fait pas des gestes comme ça en disant « pouette, pouette, pouette » pendant que son mari parle.
Elle s'est améliorée, voilà. Et...
Paix à son âme, Marie-Claude. Voilà. Bon, tu auras ton temps de parole après.
Donc, moi, je me vois bien voilà, vivre encore un certain temps, bien, physiquement, que ça aille bien, et que ma tête aille bien, et que, voilà, et que ça aille bien, quoi. Voilà, c'est tout. Je suis un optimiste de naissance, on va dire.
Alors, tu dis que tu as réalisé beaucoup de tes rêves. Quels étaient tes rêves quand tu étais jeune ?
Je voulais fonder une famille, hein, voilà, j'ai fait le métier dont j'avais envie, donc j'étais agriculteur. On a eu un certain nombre de difficultés, aussi bien financières que personnelles, et que nous avons pu, avec Marie-Claude, surmonter. Donc tout ça donne beaucoup de satisfaction.
Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être agriculteur ?
Ah ben là, chez nous, on est agriculteur depuis les Gaulois, hein, donc il y a une tradition. La première chose qui me vient là, en fait, c'est quand je laboure l'odeur de la terre. Quand on laboure l'hiver, hein, je dis bien, mais l'hiver, là, au mois de novembre, au mois de décembre, ça, c'est la vie, ça.
Et en plus, tu sais de quoi tu parles, parce que tu avais combien d'hectares ?
J'en avais 140, donc c'est qu'une ferme moyenne dans notre secteur, hein. Secteur de la Beauce. Voilà, on est au nord de la Beauce.
Et tu as dit que tu avais réalisé tes rêves, enfin beaucoup de tes rêves. Est-ce que quand tu étais jeune, ton rêve c'était d'épouser une psy ?
Alors là, à l'époque...
Sois honnête, Pascal.
À l'époque, quand quelqu'un était un petit peu dérangé, on disait, lui, il va terminer à Bonneval. Parce qu'à Bonneval, il y a un hôpital psychiatrique. Et vraiment, là c'était la déchéance. Donc, oui, mais attention. Quand je l'ai épousée, elle n'était pas psy.
Ah oui.
Elle l'est devenue. C'est un long mûrissement que j'ai accompagné, que j'ai partagé et qui m'a beaucoup apporté. Et quand je l'ai rencontré, c'était quelqu'un... Alors, j'avais certaines difficultés dans mes sentiments, de savoir exactement ce que je ressentais. Parce que c'est... Bon, quand on est paysan, on ne ressent rien, enfin, ou peu. Donc, bon,
si, on ressent la terre, tu l'as dit.
Oui, mais à l'époque, tout ça, c'était un peu bien fermé. Et, mais j'ai toujours su qu'elle amènerait quelque chose d'essentiel à ma vie. Et ça s'est avéré vrai.
Toi-même, tu as vu un psy ou une psy ?
Ah oui. J'ai vu différents psys d'ailleurs, mais pendant une décennie et demie quand même.
Il ne doit pas y avoir tant d'agriculteurs que ça qui voient un psy, non ?
Non, parce que quand on est paysan, on est des hommes, et quand on est des hommes, voilà. C'est d'ailleurs pour ça que je ne voulais pas voir au début le film de Bergeon, là, Au nom de la terre, parce que j'aurais pu vivre cette histoire.
L'histoire du suicide du père, ouais. Parce qu'il ne s'en sort pas.
Parce qu'il ne s'en sort pas, le suicide du père. J'ai refusé vraiment de le voir et je l'ai vu il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Donc la psy m'a protégé de ça, m'a fait découvrir plein de facettes de moi que je ne connaissais pas, c'est surtout que je ne cherchais pas à mettre en avant, quoi.
Tu peux nous dire quelle facette ?
Le plus important pour moi a été de sentir l'amour que je pouvais avoir pour Marie-Claude. Ce qui a ouvert tout un champ de sensibilité que je refusais avant d'aborder, quoi.
Bon, alors là, tu me tends une perche. Je m'intéressais maintenant à Marie-Claude. Qu'est-ce que tu faisais avant d'être psy ? Puisque Pascal nous a dit que quand vous vous êtes rencontrés à la chasse...
À l'époque, à la chasse, j'étais encore étudiante, comme quelqu'un qui se cherche et qui a eu tout un parcours délicat, difficile, issu du milieu agricole où je ne me sentais pas intégrée.
Tes parents étaient agriculteurs ?
Mes parents étaient agriculteurs et je ne me sentais pas du tout intégrée dans ce milieu pour des raisons diverses et variées. J'étais la quatrième de la famille. J'étais pas attendue comme une fille, mais comme un garçon. Donc, on habitait à proximité de Chartres. Et donc, je partais à l'école très tôt, très jeune, toute la journée, 4 ans. Je partais en colonie. J'ai fêté mes 4 ans en colonie. Du coup, j'étais éloignée de la ferme et de tout ce qui pouvait concerner l'intérêt d'une ferme, au-delà de la contrainte, sur le côté... beauté de ce que représentait ce métier. Hein. C'était plutôt présenté comme un aspect très contraignant. Il faut dire que mes parents avaient réintégré une ferme de famille qui était plus ou moins à l'abandon à l'époque de leur mariage. Ils avaient eu énormément de galères, dont une distillerie qui partait à volo au moment de ma naissance, dont j'étais pas la plus attendue à l'époque. Progressivement, j'ai cheminé vers ce qui m'était autorisé d'ouvrir comme champ possible au-delà de l'agriculture, c'est-à-dire le tourisme. J'avais une volonté de devenir orthophoniste, mais ce n'était pas la volonté de mon père. Et à l'époque, il fallait suivre ce père très patriarcal qui avait des idées très préconçues pour la destinée de ses filles, hein, il en avait 4 et il fallait bien les caser tôt ou tard. Donc le plus tôt serait le mieux pour qu'il ait plus à s'en occuper, à s'en charger. Donc voilà, alors on s'est mariés très tôt avec Pascal.
Finalement, excuse-moi de te couper, mais ton père était agriculteur et t'es allé épouser un agriculteur.
Mais je suis quand même allée épouser un agriculteur. Alors bon, c'est quand même une histoire un petit peu particulière, hein. Je ne vais pas tout dévoiler là, à ce micro. Mais
pourquoi ?
Pourquoi ? Alors, tu sais, dans le milieu agricole, c'est quand même étonnant, occasionnellement, mais pas que dans le milieu agricole, en fait, j'ai épousé, comment dirais-je, le frère de mon beau-frère qui est marié avec une de mes sœurs. Parce que finalement, c'est quand même une perturbation, hein, deux sœurs mariées aux deux frères, c'est pas si simple.
Ouais, c'est
hein.
Ça. Donc, vous, c'est ça.
Surtout
vous
quand avez... on arrive en deuxième. Hein. J'ai eu un petit signe tout à l'heure. Sur, la belle-mère humaniste.
Sur la belle-mère.
Hein, sur la belle-mère humaniste. Ouais. Je peux répéter parce qu'elle n'était pas franchement humaniste pour moi, non ?
Ouais, c'est ça.
Ni le beau-père. Ni le beau-père d'ailleurs.
Et qu'est-ce qui te reprochait finalement ?
D'arriver la deuxième et puis d'avoir à nouveau la même famille avec qui frayer encore.
Deux sœurs ont épousé deux frères.
Deux sœurs ont épousé deux frères. Sur un plan symbolique, c'est très fort. Hein. Il y a quelque chose de fort qui se passe. Je suis là pour réparer un drame ancestral.
Pourquoi toi, tu es là pour réparer et pas ta sœur ?
Parce que je suis venue en deuxième. Puis moi qui suis venue me coller en quelque sorte à ma sœur, pour des raisons très, on va dire, très psy déjà à l'époque, c'est-à-dire que ma sœur avait été malade pendant une période et on m'avait demandé de m'occuper d'elle. J'ai eu une injonction très forte qui me guidait déjà vers mon métier.
Donc tu as travaillé dans le tourisme et à quel moment tu t'es autorisée à être psy ?
Ah, mon Dieu, ça a été toute une période. J'ai eu une période où je me suis arrêtée donc, de travailler pour m'occuper de mes enfants, les deux enfants, qui ont été pour moi une ouverture différente à ma vie, extraordinaire, hein, je le dis aussi. Et puis, chemin faisant, j'ai refait des formations, j'ai travaillé en entreprise, voilà, dans des services de comptabilité. Et puis un jour, je faisais plus l'affaire et j'ai été licenciée. De fait, j'ai emmené mon entreprise au Prud'homme et de fait, j'ai gagné et j'ai pu me former là dans des domaines, dans des disciplines qui me passionnaient davantage.
Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui d'être psy à la campagne ?
Ah, la campagne ! Je trouve que c'est très important de pouvoir... D'abord, ça démocratise au sens large du terme une profession qui n'est pas réservée à une élite. Hein. Et dans ma patientèle, j'ai travaillé, c'est vrai, dans deux villages différents. Donc celui où j'exerce maintenant, mais j'ai toujours exercé là depuis 22 ans. Je trouve que c'est très important de pouvoir redonner de la vie à la campagne. Au fond, c'est un voyage, hein. C'est un voyage à l'intérieur de soi, c'est un voyage pour venir jusqu'à la campagne. Et ça permet, et ça a permis très souvent que j'entende, qu'au moins c'était discret, personne n'allait me voir. Les personnes venaient travailler à la campagne pour ne pas être vues, parce que c'est encore un domaine qui interroge. On va chez le psy, on a des problèmes.
Ouais.
Je suis parfaitement heureuse dans mon métier et... Ça donne, c'est vraiment un sens très profond qui m'anime depuis très très longtemps. J'ai toujours su que j'étais portée vers cette inclination depuis que j'étais petite. Quoi. C'était comme ça, je m'occupais de ma petite sœur, il fallait que je m'occupe de ma petite sœur, il fallait que je m'occupe de ma sœur plus âgée qui était souffrante un moment. J'ai accompli ce que je devais accomplir. Je me réalise pleinement.
Quel est ton rêve, Marie-Claude ?
Mon rêve, de continuer à permettre à des gens de s'épanouir et de sortir de leur impasse traumatique, dissociée, enfin de retrouver leur équilibre. Pouvoir continuer la musique, parce que je joue du piano et j'adore avoir du temps aussi. Je trouve un équilibre maintenant que je n'avais pas trouvé auparavant à la campagne. Et j'aimerais continuer à voyager aussi. Je me réalise en tant que grand-mère avec mes petits-enfants que tu peux voir là derrière en photo. J'adore être avec eux quand c'est le moment. Et mes enfants aussi.
Bon, je suis quand même obligé de conclure parce qu'il faut que j'aille jusqu'à Chartres. Mais je ne peux pas éviter cette réflexion qui est que j'ai quand même croisé beaucoup d'agriculteurs et tu es le premier agriculteur à rouler en Porsche.
Ah oui, ça faisait partie d'un rêve qui est réalisé. Mais ça a été une vraie réflexion. Pour moi, c'était un progrès de me faire vraiment plaisir. Voilà. Et ça, c'était important pour mon développement. Parce qu'il n'arrête pas, lui, le développement.
Il faut préciser aussi, c'est toi que je te remercie d'ailleurs parce que tu m'as fait hier visiter toute la région et je me suis rendu compte d'ailleurs, je dois vous faire une confidence, c'est que je vous ai souvent dit que je passais à côté de champs de blé et je pense que je suis souvent passé à côté de champs d'orge. Mais bon, on ne pourrait pas vérifier, mais maintenant je vais être beaucoup plus vigilant. Et donc ça, c'était un vrai plaisir de découvrir tout ça. Tu m'as aussi dit qu'ici, c'était la région où les agriculteurs étaient les plus riches.
C'est pas la seule, d'ailleurs. Il y a des régions qui sont grandement, même plus d'ailleurs. Mais c'est un bon terroir. Et voilà, c'est pour ça que La France est un pays exportateur de denrées alimentaires parce que y a des bons territoires avec des agriculteurs performants qui se forment, qui s'investissent beaucoup, qui investissent beaucoup d'argent aussi parce qu'il y a tout ce côté-là dans l'agriculture où les capitaux sont très importants. On dit dans le tertiaire, il faut investir 0,5 pour gagner 1. En industrie, il faut investir 3 pour gagner 1. En agriculture, il faut investir 10 pour gagner 1. Et on récolte qu'une fois par an. Donc c'est très très lent. Tout est très lent. Il n'y a pas deux années pareilles. Il y a une année sèche, une année humide, une année chaude, une année froide. Et il faut savoir s'adapter en permanence, quoi.
Quel était l'essentiel de ta production ?
Alors bon, la base c'était le blé, mais j'ai eu pendant très longtemps une production de haricots verts. Haricots verts frais. Ces haricots verts étaient distribués soit à Rungis ou soit dans la grande distribution sous la marque l'haricot vert.
L'haricot vert, hein.
Voilà, l'haricot vert.
Bon, allez, une dernière question, parce qu'il faut que j'y aille, sinon je ne vais jamais arriver à Chartres. Orsonville, ça vient de quoi ?
Bah, Orson Welles, voyons.
Ah purée, je suis piégé. J'ai trouvé plus blagueur que moi. Bon, alors moi, je peux vous le lire, parce que j'ai cherché sur Wikipédia. Et Orson, ça vient de ours et ville. Bon, ville. Et donc, on dit que ça pourrait être lié à ça dans l'ancien français. Tu as une autre histoire à raconter, à part Orson Welles ?
Non, j'en ai pas. Non, je ne me suis jamais trop posé la question, d'ailleurs.
Quand même, tu as été maire pendant 15 ans et tu ne t'es pas posé la question.
Non, j'ai agi, voilà. Moi, je suis dans l'action, voilà. Donc, voilà.
Moi, j'ai compris, il fallait que je sois dans l'action, donc j'y vais. Merci encore beaucoup à tous les deux pour votre accueil. C'était vraiment un vrai bonheur de vous rencontrer. Et j'espère qu'on se recroisera, qui sait. Allez, ciao.
Ciao.
Et voilà une étape qui démarre en retard. Il est déjà 9h alors que j'ai plus de 30 km à faire. Il y a des lièvres partout là, ça c'est magnifique. Et donc là, je passe à côté d'une plantation d'estragon. À ma droite, un champ d'orge qui va, mais j'en vois même pas le bout. Ah oui, maintenant je suis précis, hein. Ça c'est de l'orge, ça c'est de l'estragon. Là c'est un champ qui n'a pas encore été semé. Parce que je suis passé là hier avec Pascal. Et là, on sent l'odeur d'estragon, c'est étonnant. Et je suis à un chemin de terre. Il fait 13 degrés. Pour ceux qui veulent des détails, Marie-Claude, elle est psy EMDR. Je vous laisse chercher les références, hein, parce que je ne voudrais pas dire de bêtises. Et Pascal, qui disait qu'ils étaient agriculteurs dans sa famille depuis les Gaulois, mais ils ont deux enfants, et visiblement, aucun ne va prendre la suite. Donc aujourd'hui, les terres ont été louées ou confiées à d'autres. Mais alors, ils ont une grande ferme magnifique. Il y a un mur de l'église qui clôt la cour de la ferme. Pascal avait l'honnêteté de reconnaître que la guerre en Ukraine avait fait monter les cours du blé. Et que comme il vendait du blé, pour lui, ça a été des bonnes années. Juste avant de partir à la retraite. Et les lièvres partent de partout. Ils m'entendent parler, alors ils s'enfuient. Et là, je suis vraiment sur cette grande terrasse dont parlait Charles Péguy. Hein. On a une visibilité infinie. J'ai le soleil dans le dos. Je vois au loin, dans mon dos, si je me retourne, une vieille tour en ruine, reste d'un moulin qui appartient à Pascal. Comme il le disait, quoi, il a énormément travaillé, il a irrigué toutes ses terres pour pouvoir avoir un bon rendement, pour ses haricots verts. Et je vais vous lire un message que j'ai reçu de Guéric. Salut Hervé, un message pour t'envoyer toutes mes pensées d'encouragement et te souffler dans le dos ces quelques mots pour t'aider à avancer dans cette belle aventure. Maintenant, à chaque printemps, on est beaucoup à t'écouter marcher tout en restant assis, alors merci. Je distingue les petits rêves de ceux qui sont inaccessibles, mais j'entends aussi des gens qui ne rêvent plus. Beaucoup répondent qu'ils n'ont pas de rêve. Est-ce que c'est de la sagesse ? Se contenter de ce qu'il y a, de l'humilité. J'ose dire qu'il y a une forme de résignation. Moi, je rêve de grandeur pour moi et pour les autres. Je rêve d'un Paris qui retrouve de la joie. Je rêve de gravir un glacier, de publier un livre, d'avoir une émission de radio, de gagner le championnat régional avec mon club de rugby. Car réussir dans la vie, c'est un objectif et avoir ma famille en bonne santé, un prérequis au bonheur. Je rêve que mon fils soit plus heureux à l'école car il a du mal en ce moment. Tu sais vraiment ce dont je rêve ? C'est que demain, tout le monde sorte de chez soi et marche vers l'Ukraine, vers le Moyen-Orient, que l'espèce humaine prenne sa destinée en main et marche comme tu le fais. En tout cas, merci Hervé, car avec toi, je vis un petit rêve. On découvre la France et surtout des voix et des visages qui nous montrent qu'on n'est pas seul. J'ai une question pour toi, Hervé. Parmi ces trois voyages de marche, est-ce qu'il y a un village, un endroit où tu t'es dit « j'aimerais m'y installer » ou « passer des vacances » ? Très bonne route à toi, compagnon si loin et si proche. Et Guéric est libraire à Paris, 72 rue de Miroménil, librairie Gros Câlin. Tout un programme. Eh bien, pendant cette marche-là, je suis tombé sous le charme de la ferme du Nouveau Chemin, près de Bourbruche, où il y avait une lumière extraordinaire. La nature était magnifique, ce cirque de verdure. Ça m'a beaucoup plu. Mais moi, après, moi, ce qui compte, c'est les gens avec qui je suis, surtout. Donc, bon, si le paysage est un peu moche, mais que je suis avec des gens que j'aime, ça va, quoi. Après, tu vas me dire, on peut aussi être avec des gens qu'on aime dans un cadre qui est merveilleux. C'est vrai. Mais bon, le cadre dont je te parle, je ne sais pas si je pourrais y vivre toute l'année, quoi. C'est vrai que là, c'était un peu hors du temps. Et d'ailleurs, j'ai croisé des auditeurs qui m'ont dit « Ah, ça m'a donné envie d'aller voir ce coin-là ». Déjà une heure que je marche et c'est un exploit. J'ai sorti le chapeau que j'avais dans mon sac depuis le début. Oh, génial, il y a un lièvre, il court vers moi. Bah, ça va là. Là, il m'a pas vu. Là, il s'arrête. Il dresse ses oreilles. Il bouge pas. Là, je sais pas, il est à 20 mètres. Hop, allez, fais demi-tour. Et hop, il part dans le champ. Wow! Là, la vitesse du lièvre, c'est pas une légende. Touf, touf! Donc, oui, j'ai mis le chapeau, le soleil commence à taper. Mais, paradoxe, j'ai les pieds mouillés. Eh oui, parce que l'herbe était bien humide, et donc, voilà. Mais c'est pas grave, puisque j'ai toute la journée pour les sécher. J'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à mon fils Nathan. Eh oui, 24 ans. Je dois vous dire qu'il commence à en avoir marre que je ne sois pas là pour son anniversaire. Bon, ben là, j'espérais qu'il puisse venir, qu'on puisse se retrouver, mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Nathan continue à bien profiter de la vie, à t'éclater, et c'est merveilleux d'être ton père. Mais j'en profite aussi pour souhaiter un bon anniversaire à Pascal qui vient de m'héberger. Eh oui, parce qu'il est du 15 avril aussi. Incroyable, non? Bon, et puis je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés le 15 avril, il n'y a pas de raison. Hein. Et là, les agriculteurs bossent. À droite, ils sèment, à gauche, ils pulvérisent. Pascal, justement, il me disait que son pulvérisateur faisait 36 mètres de largeur. Il couvrait de la surface. Mais quand vous voyez la taille des parcelles, il vaut mieux ça, sinon, passez votre vie à faire des allers-retours. Pascal, au départ, a essayé de se lancer dans le bio et dans les années 80, mais c'était trop tôt. Il n'y avait pas les aides qu'il y a aujourd'hui, il y a été un peu de sa poche, donc il est retourné dans le conventionnel, mais son neveu qui a repris les terres, lui, bah, il a planté de la luzerne pour justement passer en bio. Il est midi et quart, plus de 3 heures que je marche. Mis à part les agriculteurs sur leur tracteur ou les utilisateurs de tondeuses, tronçonneuses, débroussailleuses, karchères, que je n'ai pas voulu déranger dans leur tâche du week-end, je n'ai croisé personne dans ces longues lignes droites, herbeuses, bordées par le jaune du colza ou le vert du blé, surveillées par quelques tours de château d'eau. J'ai quitté les Yvelines pour entrer en Eure-et-Loire. J'ai passé Essart, Levainville, et pourtant pas de boulanger avec un nom comme ça. J'ai franchi la Voise, j'ai traversé Auconville, et là, à la sortie d'un pont, en prenant sur la gauche, au bout me sont apparues les deux tours de la cathédrale de Chartres. Et Charles Péguy, qui avait donc fait ce chemin en juin 1912, il était seul à ce moment-là, puisque Alain Fournier était retourné à Paris en train, son fils était rentré à Palaiseau où il vivait. Charles Péguy écrivait « Mais vous apparaissez, reine mystérieuse, cette pointe là-bas, dans le moutonnement des moissons et des bois, et dans le flottement de l'extrême horizon, ce n'est point une lieuse, ni le profil connu d'un arbre interchangeable. C'est déjà plus distante et plus basse, et plus haute, ferme comme un espoir sur la dernière côte, sur les derniers coteaux, la flèche inimitable. D'ici vers vous, ô reine, il n'est plus que la route. Celle-ci nous regarde, on en a bien fait d'autres. Vous avez votre gloire et nous avons les nôtres. Nous l'avons entamée, on la mangera toute. Nous savons ce que c'est qu'un tronçon qui s'ajoute au tronçon déjà fait, et ce qu'un kilomètre demande de jarret, et ce qu'il faut en mettre. Nous passerons ce soir par le pont et la voûte, et ce fossé profond qui cerne le rempart, nous marchons dans le vent coupé par les autos. C'est ici la contrée imprenable en photo, la route nue et grave, allant de part en part. Nous avons eu bon vent de partir dès le jour, nous coucherons ce soir à deux pas de chez vous, dans cette vieille auberge où pour 40 sous, nous dormirons tout près de votre illustre tour. Le vent souffle et il me reste 15 kilomètres. J'aime ces grandes étendues paisibles, ces lignes droites où le chemin paraît évident. De temps en temps, le jaune passe à gauche et le vert à droite. Et sur ma gauche, les éoliennes tournent. Mais heureusement, dans l'axe de la cathédrale, nul moulin ne vient perturber la vue. J'ai l'impression que ça m'a modifié de lire du pays. Donc j'ai traversé Nogent-le-Fay et j'arrive à Chartres. Et qu'est-ce que je pourrais vous prendre ?
Olivier.
Quel est votre rêve, Olivier ?
J'aurais bien voulu partir en famille, en bateau, faire un tour du monde. C'est mal parti.
Pourquoi ?
Parce que ma femme n'est pas trop branchée bateau. Enfin, j'ai essayé un peu de... Peut-être en camping-car, voilà.
Et vous faites quoi dans la vie ?
Transporteur. À mon compte, transporteur. Une PME de 25 personnes.
Et alors, la vie est belle ?
Oui, oui, elle vaut le coup. Bah, quand on voit la France, c'est super. Moi, je suis content d'être là. Et voilà, on se plaint, mais il faut voyager. Il faut se rendre compte, en voyageant, qu'on est très bien, quoi.
Qu'est-ce qui vous plaît en France ?
La protection sociale, quand même. Même si elle est en difficulté en ce moment, mais c'est quand même bien. Et puis, le relief, surtout, la nature et la diversité, quoi.
Et votre tour du monde, vous voulez le commencer par où ?
J'aurais bien fait l'Amérique du Sud, voilà, mais bon, je sais pas. Bah, en camping-car, ça va être plus compliqué, quoi, voilà. Bah, on commencera par l'Europe, quoi, voilà, voilà.
Bon, ben, bah, merci Olivier.
Ça m'a fait plaisir.
Bah, moi aussi.
Au revoir.
Il y a un monsieur assis, visiblement, il attend. Ça, c'est idéal pour moi. Bonjour monsieur, je peux vous poser une question ?
Oui, je vous en prie.
Je suis journaliste, je traverse la France à pied, je suis parti de Strasbourg, je vais jusqu'à Brest.
Mon Dieu !
Qu'est-ce qu'il y a, mon Dieu ?
Ça fait loin.
Ah bah oui, mais après, c'est une question de temps, on prend le temps.
J'entends.
Est-ce que je peux avoir votre prénom ?
Christian.
Quel est votre rêve, Christian ?
Retourner au Cambodge, où j'ai vécu toute mon enfance et mon adolescence. Voilà, très impliqué dans ce pays, jusqu'à l'âge de 16 ans.
Et qu'est-ce que vous avez fait ?
Ah bah j'étais simplement avec mes parents, bêtement. Hein. Moi j'ai connu 2 guerres, 8 coups d'État, 3 attentats à la grenade contre la famille... Je me suis fait tirer dessus 2 fois. Et à 14 ans, j'étais patron de milice pour défendre mes copains vietnamiens au lycée français.
Ah oui.
Donc si vous voulez arriver à Paris à 16 ans, c'était calme.
Vous vous ennuyez alors ?
Ah ! Oh, j'ai fait des études.
Vous avez fait quoi comme études ?
ESCP Europe. J'ai un DE en économétrie et j'ai tout terminé à 21 ans. Mais c'est papa qui m'a payé mes diplômes, hein, c'est pas moi.
Bah non, vous avez quand même passé les diplômes, c'est papa qui a payé les
études.
Ah !
Mais non, c'est ce que j'ai raconté un jour à un chasseur de tête. Il me disait, il me faudrait que vous me donniez le certificat de l'ESCP. Je lui dis, bien sûr, là, je me suis dit, oh, je suis désolé, c'est mon papa qui m'a acheté mes diplômes. Je me suis levé, je suis parti. Je lui ai envoyé l'annuaire des anciens avec une dédicace, apprenez à lire. j'ai un très mauvais fond.
Ah, c'est bon, non, moi j'aime bien ça.
Voilà.
Mais vous n'êtes jamais retourné au Cambodge depuis vos 16 ans ?
Non, j'ai pas eu le cran. Je m'occupe d'un orphelinat au Cambodge, à Kampot.
Mais vous allez le réaliser, votre rêve, c'est pas trop difficile, ça.
C'est pas difficile, encore faut-il. J'espère y aller avec ma fille qui a 18 ans, 15.
Comme mon fils. Et alors, qu'est-ce que vous faites assis sur une bite, si
j'attends,
je puis dire
je vous en prie, il y a des enfants à table.
Oui.
J'attends.
Comment vous appelez ça, vous ? Un plou ?
Un machin.
Un machin. Bon, qu'est-ce que vous faites ?
J'attends ma chère ex-épouse, mère de ma fille, et nous allons faire des courses. Ah. Passionnant, Lidl, machin, patin, couffin. Enfin,
vous faites les courses avec votre ex ?
Ouais. Et je travaille même avec elle.
Vous travaillez dans quoi ?
Alors, elle est architecte et expert judiciaire. Et moi, je m'occupe de tout son administratif. et des relations avec les tribunaux, les avocats, etc. Comme je n'ai aucun sens diplomatique, je le rentre dans l'art.
Je suis vraiment content de vous rencontrer. Et vous habitez Chartres ?
Là, dans ce pâté d'immeuble.
Ah ouais, tout moderne.
Mais surtout neuf et soi-disant...
éco-responsable ? Non.
Normalement RT 2012. Sauf que là, si vous voulez, chez moi, il fait déjà 24.
Ah oui, il faut mettre la clim.
J'ai une clim. Alors, votre prochaine étape, c'est où ?
Eh ben, c'est Pont-Gouin.
Oui, à vos souhaits.
Vous connaissez ?
Alors, j'ai bien connu un pingouin, mais pas...
Non. Ah, Pont-Gouin ?
Non.
Pourtant, c'est pas très loin de Chartres. Hein. C'est à l'ouest, quoi. C'est-à-dire que je vous ai dit, hein, mon but, c'est d'aller à Brest, donc...
Faut bien aller vers l'ouest.
Voilà. Bon, ben, Christian, c'était un plaisir.
Merci à vous.
Bonne continuation. Merci, vous aussi. Et je laisse Christian repartir avec son ex. Et moi, je me dirige vers la pointe de la cathédrale qui dépasse derrière les toits d'ardoise. J'ai pas eu le temps de dire à Christian que j'étais allé au Cambodge, à Kompot, et lui raconter l'histoire de Ratanak, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Alors, j'en profite. Bon anniversaire, Ratanak. Ratanak, c'est un Cambodgien que les parents ont accueilli en 1975. Et voilà, qui a fait après toute sa vie en France, qui s'est marié, qui a eu 3 enfants. Et j'ai eu la chance de retourner au Cambodge avec lui et avec sa femme et avec ma sœur. Et c'était un super voyage en 2019. Mais ça, Christian ne le saura pas, puisqu'il est parti. Et voilà, je suis devant le parvis de la cathédrale de Chartres. Et je suis content de repasser par là, 2 ans après, alors que je démarrais mon chemin vers Compostelle, après 5 jours de marche, j'étais devant la cathédrale et comme c'était un vendredi, j'avais pu faire tout le labyrinthe intérieur de la cathédrale. Mais là, il y a les chaises, le labyrinthe est caché, il fait 25 degrés... Et eh ben c'était une belle étape, il est 15h à Chartres, je suis parti à 9h, j'ai marché 6h. J'ai oublié de remercier Marie-Claude qui a eu la gentillesse de répondre à mes questions. Je n'ai pas oublié Agnès, la psy de Colombey-les-Deux-Églises, qui était restée silencieuse devant mon micro. Tous les psys n'ont pas le même mode de fonctionnement, heureusement. Eh bien, j'espère avoir une bonne surprise pour demain. Si vous voulez le savoir, rendez-vous à 6h. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bonne balade à tous. Ciao!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.